Bonjour les oreilles et bienvenue dans l'émission Conte Goutte, une émission dédiée au conte, à son contexte et à ses multiples interprétations. Une émission dédiée à toutes ces histoires qu'on raconte pour s'endormir, se réveiller, pour partir et peut-être revenir. Je vous donne une poignée de mots pour qu'ils ne tombent ni de haut ni dans l'oubli, faites-en bon usage. Je suis Caroline et je vous propose de faire la route en ma compagnie pour une petite demi-heure et à toute heure du jour et de la nuit, dimanche et jours fériés compris, en podcast sur le site de Radio Campus Grenoble. Bonjour à tous. Aujourd'hui, à la demande générale, j'ai préparé une émission sur la peur. La peur dans le conte, des contes qui font peur. Et il faut que je vous avoue quelque chose, quand j'ai préparé cette émission... En général, préparer une émission, ça me prend une journée. Quand j'ai préparé cette émission, lors de la nuit qui a suivi, j'ai fait des cauchemars. Alors, j'espère, et je vous le souhaite, qu'après avoir écouté cette émission, eh bien, j'espère que vous allez faire plein de cauchemars. Voilà. Pour trouver des contes qui font peur, ça n'a pas été facile. Parce que moi, dans ma bibliothèque, j'ai plutôt des contes sympas. Ou des contes sur l'amitié, des contes sur l'amour, des contes sur les pays. Enfin, voilà, des trucs plutôt gentils quand même. Et j'ai creusé. Et j'ai fini par trouver un recueil de contes qui s'appelle « Contes populaires et légendes de Bretagne ». Et là-dedans, j'ai trouvé des contes absolument terrifiants. Voici le tout premier, il s'appelle « La pierre pleureuse ». Pour rentrer plus vite chez lui, un paysan traversa, après crépuscule, un bout des landes de Lanvaux, réputée maudite. Cet homme était courageux et s'il passait par là, ce n'était nullement par bravade et irrespect envers la malédiction, mais parce que, mis en retard par de longs marchandages à la ville voisine, il ne voulait pas que les soins de sa ferme en souffrissent. En un endroit de la lande s'élevaient les ruines d'une chapelle, privée depuis la Révolution de la statue du saint auquel elle était vouée. Des sans-dieu et sans-culottes, mais jobards, privés ni de l'un ni de l'autre, l'avaient enlevée de sa niche et réduite en cailloux. Depuis, personne au pays ne s'était soucié de remettre à la place vide une nouvelle effigie, soit en plâtre, soit en bois, en pierre ou une simple image en papier. Maintenant, à défaut du bon vouloir des hommes, seules les herbes, les ronces et la mousse y veillaient avec indifférence. Or, en passant devant la ruine, notre attardé distingua, remuant entre les herbes, une grosse boule sombre. Il s'en approcha et... Après un sursaut de dégoût, s'aperçut que c'était un hideux grouillement de limaces. Jamais il n'en avait vu autant ainsi réunies, grimpées les unes sur les autres, amalgamées en une si grouillante assemblée. Ramassant un bâton, il les écarta malgré sa répulsion afin de voir sur quoi elles s'entassaient. Mais il ne découvrit que cette grosse pierre de granit anormalement arrondie et lissée par de mystérieux frottements. Cette pierre, bien connue de tous, appelée la pierre pleureuse, parce qu'elle semblait enduite de larmes sèches, et qui s'acharnait à vouloir coûte que coûte rester fidèle à la chapelle morte, y revenant toujours comme d'elle-même chaque fois qu'on l'emportait, soit par utilité, pour borner un champ, pour caler une roue de charrette, ou, même comme le fit une fois de son propre chef, cet homme devant lequel un mystère se révélait enfin pour combler une ornière, ou plus souvent encore, par amusement, afin de voir si elle reviendrait là ou non, et en combien de temps. Tout en se demandant pourquoi ces limaces trouvaient à leur goût cette pierre chagrine, il les fit tomber une à une avec le bout d'un bâton, et ce faisant, il crut entendre des petites voix lasses, puis une seule parla. « Autant, dit-elle, que tu saches tout de suite ce que nous faisons, puisque dès cette nuit, par péché de curiosité et irrespect des choses de l'au-delà, tu vas être des nôtres. C'est ainsi. Nul ne peut nous déranger sans être puni à se joindre à nous dans les heures qui suivent. Sache que nous sommes les âmes, que l'on dit mortes, de tes précédents au pays. Depuis 150 ans, celle de chaque défunt, quel que soit son âge et sa qualité, est condamnée à venir éternellement ici chercher à sculpter la pierre que tu vois afin de lui donner les formes du saint rancunier que nos devanciers ont jadis négligé de remplacer. Chaque nuit, la damnation sans pitié vide entièrement le cimetière et chacun doit œuvrer avec les forces qu'il avait au moment de son trépas. Tant pis si à ce moment il était en douleur, sa douleur continue. Tant mieux s'il était en force, sa force persiste et nous aide, il fait le travail des vieillards et des enfants. Ainsi, ta robustesse va nous être utile. Les vivants ignorent notre punition qui, un jour, sera également la leur, si bien que lorsqu'ils déplacent ou emportent cette pierre, ils ne savent le mal qu'ils nous font car nous devons aller la rechercher où qu'elle se trouve et la ramener ici en la faisant rouler. Telle que tu nous vois en ce moment, nous la roulons depuis 3 mois et il nous faudra encore 28 nuits avant de la remettre à sa place dans la chapelle. Mais, en regard d'avoir à la sculpter, c'est une tâche encore facile. Jamais nous n'y arriverons et nous gagnerons jamais notre paradis. Allons, à présent va vite chez toi et dis un tendre adieu à chacun des tiens. Rentré chez lui, il raconta tout à sa femme qui en fut moulue de tristesse, mais réussit à retenir ses larmes. Il la consola en disant que c'était une histoire à dormir debout, qu'il avait cru faire cette étrange rencontre. Elle l'approuva avec tendresse et amertume. Il fit son travail et se coucha sans plus y penser. Au matin, on le trouva froid dans son lit, les traits creusés et les muscles tendus comme si, dès son entrée en mort, il lui avait fallu aussitôt accomplir une épuisante tâche. Mais la femme pleura sur une condamnation qu'elle savait déjà puisque, depuis 6 mois, le médecin ne lui avait pas caché que son homme partirait sans prévenir, sur une brusque lâchée du cœur. Ambiance archi glauque, s'il en est. Alors, déjà, si on regarde un petit peu le décor, l'ambiance dans laquelle ça se passe, on sait que ça se passe après crépuscule. Donc, c'est la nuit. L'homme se balade dans les landes de Lanvaux, qui sont réputées maudites. Il passe devant une chapelle en ruine devant laquelle il n'y a pas de saint. Donc là, déjà, on est en pleine malédiction. Donc, ça se passe de nuit, dans un endroit réputé maudit, et il passe devant une malédiction. Là, déjà, au moins, le décor est posé. Aucun doute, on ne va pas passer un bon moment. Et puis après, il y a cette image complètement écœurante. Cette espèce de grosse pierre, présentée comme une grosse boule sombre, avec un hideux grouillement de limaces. Nous, en tant que lecteur ou en tant que spectateur de ce conte, on est dégoûté. Et d'ailleurs, l'homme qui passe devant cette pierre, lui aussi a un sursaut de dégoût, comme le dit le texte. Mais ce qui est fou, c'est que l'homme, et bien qu'en retard, comme c'est précisé au début du conte, eh bien il s'arrête tout de même pour regarder de plus près cette pierre. Bon, là déjà, il y a un problème. Hein. C'est la nuit, on est dans un endroit maudit, on passe devant une chapelle touchée par une malédiction, il y a un grouillement de limaces sur une pierre toute bizarre, et là le mec, en retard, s'arrête quand même pour regarder. Oui, bah, il cherche aussi quand même, faut dire, hein, mais bon. Donc il y a vraiment une ambiance super angoissante. Et puis la description de la pierre confirme, souligne cette ambiance super pesante et louche. On nous dit qu'elle est anormalement arrondie, qu'elle est trop lisse. Elle est appelée pierre pleureuse parce que le mouvement des limaces dessus fait comme des larmes séchées. Et elle revient toute seule à son endroit de départ quand on la dépose ailleurs. Et puis cette pierre, elle est bien connue de tous. Donc rien que le fait qu'elle soit connue, bah, ça montre qu'elle est louche. Parce que bon, des pierres dans un champ, il y en a plein. Donc si elle, on la connaît, c'est bien que, bah, c'est bien qu'elle est bizarre. En fait, il n'y a rien de rassurant dans ce conte. Je veux dire, même les limaces sont louches. Déjà, les limaces, elles parlent. Donc ça, c'est bizarre. On apprend ensuite quelles sont les âmes des morts du cimetière d'à côté. Et elles sont condamnées à sculpter la pierre pour lui donner la forme d'un saint. Et ça fait 150 ans qu'elles font ça. Et elles sont condamnées éternellement à faire ça. Parce qu'elles le disent elles-mêmes, à la fin, elles ne gagneront jamais le paradis. Jamais elles n'arriveront à sculpter un saint dans cette pierre. Donc elles sont condamnées à faire ça pour toujours. Donc là, on est un petit peu dans le paroxysme de l'angoisse quand même. Hein. Les limaces parlent, en fait, ce sont des morts. Elles sculptent une pierre qu'elles n'arriveront jamais à terminer. Voilà, là, c'est parfait, top ambiance. Et puis, on rajoute une petite touche de mystère parce qu'on nous dit très vite que cette pierre est lissée par de mystérieux frottements. Donc non seulement l'ambiance, elle est glauque, elle est louche, mais en plus, elle est mystérieuse. Donc là, en tant que lecteur, on sait très bien que ça ne peut pas bien se terminer. C'est pas possible, en fait. Il y a trop d'éléments, il y a trop d'indices qui nous disent qu'il va arriver un malheur à cet homme. Et puis, ce qui est troublant dans cette histoire, c'est le poids complètement écrasant de la religion. On a une espèce de punition divine sur une punition divine. Je vous rappelle que les limaces sont en train de lisser une pierre pour lui donner une forme de saint, car la chapelle a été privée de la statue du saint auquel elle était vouée par des sans-dieux et des sans-culottes. C'est-à-dire que par le passé, il y a des hommes qui ont péché, donc là, les limaces sont condamnées à réparer ce péché. Et l'homme, notre homme là, qui se balade dans les Landes, il est condamné à rejoindre la bande de limaces pour expier le péché de curiosité et l'irrespect des choses de l'au-delà. Et en plus, la classe, c'est une limace parlante qui lui annonce sa sentence. Donc en fait, on a par le passé des hommes qui ont volé la statue d'une chapelle, des limaces sont condamnées à sculpter dans une pierre un nouveau saint, et cet homme-là qui passe dans la lande, lui, il va être condamné à rejoindre le clan des limaces parce qu'en fait, il a été un peu trop curieux. Voilà, donc là, on est sur une punition divine, sur une punition divine. En gros, vraiment, dans cette histoire, la curiosité, c'est un très, très, très vilain péché. En fait, tout ce qu'on peut retirer de cette histoire, c'est que cet homme qui se balade dans la lande, il est au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est vraiment la faute à pas de chance. Le mec remue un tas de limaces grouillantes et il se retrouve condamné à devenir limace pour baver sur un bout de granit jusqu'à la fin de ses jours. Et en plus, c'est même pas lui qui a enlevé la statue qui a orné la chapelle. Donc on a une espèce de combinaison du hasard et de la curiosité. Un mélange de punition et d'injustice. Voilà, là c'est vraiment... On se dit que si ce mec, il n'avait pas autant traîné dans la ville d'avant, ou s'il n'était pas passé par là, eh ben il serait rentré plus tôt chez lui, il n'aurait pas conversé avec une limace, et il n'aurait pas été condamné à sculpter un caillou au moyen de sa bave. Alors, on a quand même, et ça il faut le noter, à la fin de cette histoire, une petite phrase pour essayer de rassurer le lecteur. Pour ne pas qu'on termine en pleine crise d'angoisse, on a une espèce d'explication rationnelle pour justifier la mort de l'homme. Le médecin avait dit à son épouse que de toute façon, d'ici 6 mois, l'homme mourrait d'une sorte d'arrêt cardiaque. Moi j'aime bien cette petite touche rationnelle à la fin. Je veux dire, après toute l'ambiance glauque, la punition divine sur la punition divine, les limaces qui sont en train de poncer un morceau de granit à grands coups de bave, c'est comme si ce petit mot du médecin allait nous aider à annuler la nuit de cauchemar qui nous attend. Comme si on allait y croire, en fait, à cette justification complètement rationnelle. Non mais attendez, on n'est pas dupes quand même. On sait très bien que l'homme, il a été condamné à lécher un morceau de granit et réincarné en limace. On le sait, ça, quand même. Ouh, absolument terrifiant.
Wake up, wake up. Little sparrow, don't make your home out in the snow. Don't make your home out in the snow. Little bird, oh, don't you know your friends flew south many months ago. Your friends flew south many months ago. Just a baby, you cannot fly. Your wings won't spread against the sky. Your wings won't spread against the sky. Wake up, little make your home out in the storm. Don't make your home out in
Vous êtes sur Radio Campus Grenoble 90.8. Vous êtes toujours à l'écoute de Conte Goutte, une émission dédiée au conte, à son contexte et à ses multiples interprétations. On va pas s'arrêter là quand même. Une histoire pour faire peur, c'est bien, mais bon, une petite deuxième. Allez, une petite deuxième. Elle s'intitule L'Auberge Blanche. Il y avait autrefois au Pontou une auberge que l'on appelait l'auberge blanche à cause de la couleur de la façade. Les aubergistes étaient d'honnêtes gens qui faisaient leur Pâques tous les ans et on n'avait pas besoin de compter après eux. Les voyageurs descendaient à l'auberge blanche et les chevaux connaissaient si bien la porte de l'écurie qu'ils s'y arrêtaient d'eux-mêmes. Le décapiteur de moissons, c'est-à-dire l'automne, avait commencé à rendre les jours tristes et courts. Un soir que Flotte, le maître de l'auberge blanche, était à la porte, un voyageur, qui avait l'air d'un homme d'importance et montait un beau cheval qui n'était pas du pays, s'arrêta près du seuil, porta la main à son chapeau et dit à l'aubergiste « Je voudrais à souper et une chambre pour moi seul. » Flotte tira d'abord sa pipe de sa bouche, puis son chapeau de dessus sa tête et répondit « Dieu vous bénisse, monsieur, vous aurez à souper. » Mais pour une chambre à vous seul, nous ne pouvons vous en donner car nous avons là-haut 6 muletiers qui s'en retournent à Redon et ils ont pris les 6 lits de l'auberge blanche. » Le voyageur dit alors « Mon Dieu, brave homme, tâchez que je ne reste pas dehors. Les chiens ont un chenil. Il n'est pas juste que les chrétiens ne trouvent point en coucher par un temps comme celui-ci. » « Monsieur l'étranger, répondit Flotte bien mari, je ne sais que vous dire sinon que l'auberge est pleine et qu'il reste seulement... la chambre rouge. Eh bien, donnez-la-moi, répliqua l'inconnu. Mais l'aubergiste se gratta la tête et devint triste, car il ne pouvait donner la chambre rouge au voyageur. Depuis que je suis à l'auberge blanche, dit-il enfin, il n'y a jamais eu que 2 hommes qui ont couché dans cet endroit, et le lendemain, leurs cheveux se trouvaient blancs de noir qu'ils avaient été la veille. Le voyageur regarda l'aubergiste. Avez-vous donc des morts ? « Qui reviennent chez vous, brave homme ? » demanda-t-il. « Il y en a, » murmura Flotte. « Alors, à la grâce de Monsieur le bon Dieu et de Madame la Vierge, faites-moi du feu dans la chambre rouge et bassinez mon lit car j'ai froid. » L'aubergiste fit ce qui lui avait été ordonné. Quand il eut soupé, le voyageur souhaita une bonne nuit à tous ceux qui étaient à la table et il monta dans la chambre rouge. L'aubergiste et sa femme, tout tremblants, se mirent en prière. Cependant, l'étranger était arrivé à l'endroit où il devait coucher et il regarda autour de lui. C'était une grande chambre couleur de feu, avec de grandes taches luisantes sur le mur, si bien qu'on l'aurait cru peinte avec du sang encore frais. Dans le fond, il y avait un lit carré, contouré de grands rideaux. Le reste était vide et l'on entendait le vent qui soufflait tristement dans la cheminée et dans les corridors, comme les voix des âmes demandant des prières. Le voyageur se mit à genoux, parla tout bas à Dieu, puis se coucha sans crainte. Bientôt, il s'endormit. Mais voilà qu'au moment où minuit sonnait à l'église éloignée, il se réveilla et entendit les rideaux qui glissaient sur leur gaule de fer et qui s'ouvraient à sa droite. Le voyageur voulut descendre du lit, ses pieds heurtèrent quelque chose de froid et il recula effrayé. Il y avait là, devant lui, un cercueil avec les 4 cierges aux 4 coins et par-dessus le grand drap noir semé de larmes blanches. L'étranger s'élança de l'autre côté du lit. Aussitôt, le cercueil y passa et lui barra de nouveau le passage. 5 fois, il essaya de sortir et 5 fois, la bière se blassa sous ses pieds avec les cierges et le drap noir. Le voyageur comprit que c'était un mort qui avait sa demande à faire. Il se mit à genoux dans son lit et après s'être signé. « Qui es-tu, mort ? » dit-il. « Parle, c'est un chrétien qui t'écoute. » Une voix sortit du cercueil et dit « Je suis un voyageur assassiné ici, par ceux qui tenaient l'auberge avant l'homme qui y demeure maintenant. Je suis mort en état de péché et je brûle dans le purgatoire. Que veux-tu, à mon peine, pour te soulager ?» Il me faut 6 messes dites à l'église de Notre-Dame du Folgoat par un prêtre en étole noire et blanche, puis un pèlerinage fait en mon intention par un chrétien à Notre-Dame de Rumengol. À peine le voyageur avait-il parlé ainsi que les cierges s'éteignirent, les rideaux se fermèrent et tout rentra dans le silence. L'étranger passa la nuit en prière. Le lendemain, il raconta tout à l'aubergiste, puis il lui dit « Brave homme, je suis monsieur de Rouen, de famille noble s'il en est en Bretagne. J'irai faire un pèlerinage à Rumengol et je paierai les 6 messes. Ne vous inquiétez donc plus, car l'âme sera délivrée. » 1 mois après, la chambre rouge avait perdu sa couleur de sang. Elle était redevenue blanche et gaie comme les autres. Et l'on n'y entendait plus d'autre bruit que celui des hirondelles qui nichaient dans la cheminée. On n'y voyait plus autre chose que 3 lits et un crucifix. Le voyageur avait tenu sa parole. Le jeu des couleurs, la religion, l'importance des promesses et l'omniprésence de la mort, on va regarder tout ça d'un peu plus près. Déjà, dans ce conte, il y a une thématique super importante sur les couleurs. L'auberge est blanche. C'est son nom, on ne peut pas y échapper. C'est le titre du conte, on nous le répète plein de fois. Le blanc, c'est un symbole de pureté et d'innocence. Et à côté de ça, on a la chambre rouge. Bon, ben, le rouge, bien sûr, c'est la couleur du sang, de la violence. On nous dit qu'il y a les couleurs de feu, qu'il y avait de grandes taches luisantes si bien qu'on l'aurait cru peinte avec du sang encore frais, et qu'un voyageur a été assassiné ici, ce qui valide vraiment la couleur de cette chambre. Quelque chose de violent, mort, du sang. Et n'oublions pas que c'est l'automne. Et l'automne, dans ce conte, est présenté comme le décapiteur de moissons. Ah, déjà, on est encore sur une ambiance très violente. On sent la mort arriver. Et on nous dit que les jours sont tristes et courts. Et on peut imaginer que dehors, les arbres et la nature a mis les couleurs de l'automne, c'est-à-dire le rouge, de l'orange sans doute aussi. Et on revient encore une fois à cette thématique autour du sang. Donc on a vraiment 2 couleurs dans cette histoire. On a le blanc d'un côté comme symbole de pureté et d'innocence. Et d'ailleurs, on nous le dit à la fin du conte, la chambre rouge va devenir blanche et elle va être de nouveau une chambre gaie et joyeuse. Et en face de ça, on a la thématique du rouge, la chambre rouge dans laquelle quelque chose de violent a eu lieu. Elle est couleur de feu et il y a la thématique du sang forcément associée à cette couleur-là. Ensuite, bien sûr, il y a l'évocation de la mort qui est omniprésente, que ce soit, comme on a pu le dire, l'automne, donc le décapiteur de moissons avec les jours tristes et courts. Et puis, la mort est évoquée très frontalement dans ce conte. Le voyageur demande à l'aubergiste « Avez-vous donc des morts qui reviennent chez vous ?» Ce à quoi l'aubergiste répond sans détour et très franchement « Il y en a ». On a aussi le moment où le voyageur dans la chambre s'adresse à la voix qui sort du cercueil. Donc le voyageur demande « Qui es-tu, mort ? Parle !» Et le voyageur répond « Je suis un voyageur assassiné. » Donc la mort est abordée sans détour, très simplement, et c'est presque rassurant. Moi j'ai trouvé, à titre tout à fait personnel, que le fait de parler de manière aussi décomplexée de la mort, de dire « Oui, il y a des revenants dans cette chambre, oui, une personne a été assassinée ici », en fait, ça enlève presque le côté de l'autre. On sait qu'on a affaire à un conte où la vie et la mort se rencontrent dans le même monde. Et pourtant, même si la mort est évoquée de manière très frontale et que c'est presque rassurant, il y a quand même dans ce conte de quoi être effrayé. Bon, alors déjà, la chambre rouge dans laquelle il y a eu 2 morts, il faut quand même dire ce qu'il y est. Elle est franchement glauque. Faut avoir du courage pour aller dormir là-bas. On a l'impression que les murs saignent, l'image est très très forte. Et puis il y a le vent dans la cheminée, on dirait la voix des âmes demandant des prières. Et puis l'ambiance change à minuit, alors bien sûr minuit c'est l'heure fatidique. Les rideaux s'ouvrent tout seuls, il y a l'apparition du cercueil. Le cercueil bouge tout seul, il empêche l'homme de descendre de son lit. Là quand même c'est quelque chose de très très angoissant, on a l'impression que le voyageur ne peut pas échapper à ça en fait, il n'y a aucune issue possible. Et malgré le contexte, malgré tous ces éléments très très angoissants et effrayants, on est surpris par le courage et la sérénité du voyageur. On lui annonce qu'il y a eu des morts dans la chambre rouge, mais ça ne l'arrête pas. Il décide pourtant d'aller y dormir. Il fait une prière avant de dormir et le texte nous dit qu'il se couche sans crainte. Et puis voyant le cercueil qui lui barre le chemin, et au moment où il comprend que c'est un mort, il s'adresse à lui, très simplement. Il y a un cercueil qui l'empêche de sortir du lit, et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il se dit, tiens, je vais parler avec le cercueil, aucun problème. Donc il entame un dialogue avec le mort et c'est vrai qu'au tout début, quand il comprend que c'est un cercueil qui l'empêche de sortir de son lit, il est un petit peu affolé, mais très très vite, il reprend possession de lui-même et entame un dialogue avec cette voix qui sort du cercueil. Et ce qui est étrange en plus, c'est que non seulement le voyageur est assez serein, il est courageux, mais c'est même lui qui va rassurer l'aubergiste, c'est-à-dire qu'après la nuit passée dans la chambre rouge, le voyageur va voir l'aubergiste et lui dit « ne vous inquiétez donc plus ». Voilà. Donc non seulement il n'a pas peur, mais en plus il rassure les gens. On ne peut pas nier que son courage à ce voyageur est très étroitement en lien avec la religion. Le voyageur s'appuie sur la religion. Il en fait une armure capable de le protéger de tout. C'est comme s'il disait « Non, c'est bon, je suis chrétien, il ne peut rien m'arriver ». D'ailleurs, quand il arrive à l'auberge, le voyageur se présente comme un chrétien, plutôt que comme un homme ou monsieur de Rohan, comme il le dira plus tard. Il dit « Il n'est pas juste que les chrétiens ne trouvent pas où coucher ». Voilà, donc pour lui, d'emblée, il s'annonce en tant que chrétien. Et puis, après l'annonce des morts dans la chambre, le voyageur dit à l'aubergiste « À la grâce de Monsieur le Bon Dieu et de Madame la Vierge, il ira dormir dans la chambre. Il s'en remet complètement à Dieu. Encore une fois, c'est comme s'il disait « S'il doit m'arriver quelque chose, il m'arrivera quelque chose. Si je dois m'en sortir, je m'en sortirai. » C'est Dieu qui décide et c'est même pas lui. Une fois dans sa chambre, le texte nous dit « Le voyageur se mit à genoux, parla tout bas à Dieu, puis se coucha sans crainte. » Donc là aussi, encore une fois, on a une prière comme pour le protéger de la nuit qui arrive. Quand le cercueil l'empêche de descendre et, je cite, « qu'il comprit que c'était un mort qui avait sa demande à faire, il se mit à genoux dans son lit et s'est signé. » Donc là aussi, encore une fois, il voit qu'il y a une forme d'au-delà qui arrive jusqu'à lui et pour se protéger, peut-être se rassurer ou se donner du courage, il fait une prière et il se signe, il s'en remet encore une fois à Dieu. Et lorsqu'il s'adresse aux morts, il dit « c'est un chrétien qui t'écoute ». Encore une fois, il ne se présente pas en tant qu'homme, en tant que noble ou que sais-je, il se présente en tant que chrétien. Et après avoir parlé avec le mort, le voyageur, je cite, « passa la nuit en prière ». Donc le voyageur prie avant de dormir, il prie lorsqu'il découvre le cercueil au pied de son lit, et il prie après la disparition du cercueil. Donc toute cette histoire est encadrée par la prière. Et bien sûr, la solution pour mettre fin à cette chambre hantée, c'est de dire six messes, puis de faire un pèlerinage. On ne sait pas si c'est du courage, de l'inconscience ou un aveuglement dû à la religion, mais le fait est que le voyageur est extrêmement courageux et c'est lui qui va apporter une solution à cette auberge un peu hantée. Encore une fois ici, c'est un innocent, un homme de passage, qui est empêtré dans une histoire de péché, de punition et de rédemption. Notre voyageur est embêté par l'âme d'un homme tué violemment, en état de péché. Et lui, qui voulait juste dormir, se retrouve à prendre en charge la libération d'une âme. Comme quoi, vaut mieux réfléchir à deux fois avant de se promener la nuit dans les Landes bretonnes.
à fous, au fous, wing dwino, iran fto, imik, simik, à fous, au fous, wing dwino, iran fto, I will take the train, leave the sun for the rain and come downtown.
J'allais pas vous laisser sur juste deux contes terrifiants quand même. Jamais 203. Allez, un petit dernier pour la route. Et lui, il s'appelle La tête du mort. Il y avait près de 100 ans, une jeune femme vint s'offrir comme domestique dans une auberge de Pompéan qui servait de pension à des employés de la mine. Elle semblait honnête et fut acceptée. Cette femme, étrangère au pays, était fort belle, mais d'une beauté étrange. Ses yeux noirs, durs et brillants semblaient lire jusqu'au fond de l'âme de ceux qu'elle regardait. Jamais elle ne riait ni ne plaisantait avec qui que ce soit et semblait même sous l'empire de souvenirs pénibles. Elle produisit une vive impression sur l'esprit d'un des comptables de la mine qui en devint éperdument amoureux. Il demanda sa main, qu'elle refusa d'abord, bien que ce fût un parti avantageux pour une servante. Le jeune homme ne se découragea pas. Il redoubla d'attention pour elle et s'y prit de telle façon qu'il finit par vaincre sa résistance et la décida à l'épouser. Le jour de la noce ayant été fixé, le fiancé alla, selon l'usage, inviter ses parents et amis à son mariage. L'idée d'épouser cette belle fille, qu'il aimait de tout son cœur, le rendait fou de joie et dans chaque maison où il entra, il accepta de boire et de trinquer à la santé de la nouvelle mariée. Aussi, en s'en revenant, était-il d'une gaieté extraordinaire. En passant par un chemin creux, il mit le pied sur un gros caillou rond qui le fit trébucher. « Toi aussi !» dit-il au caillou en éclatant de rire. « Je t'invite à ma noce !» À son grand étonnement, il entendit le caillou lui répondre « J'accepte ton invitation et tu peux être certain que j'assisterai à ton mariage. » Le jeune homme cessa de rire, se baissa et au lieu d'un caillou vit une tête de mort. Ses cheveux se dressèrent sur sa tête, une peur effroyable s'empara de lui et il se sauva à toutes jambes jusqu'à Pompéan. Quand il arriva dans le village, il était tard et tout le monde dormait. Il rentra seul dans sa chambre où son sommeil fut agité jusqu'au lendemain matin. Mais lorsqu'il vit le jour pénétrer chez lui, il crut avoir fait un mauvais rêve et attribua à l'ivresse l'histoire de la tête de mort qu'il finit par oublier complètement. La messe de mariage eut lieu à Brutz. C'était en octobre. La nuit vient de bonne heure et lorsque les invités entrèrent dans la grange où le festin devait avoir lieu, il faisait quasiment nuit. On alluma quelques bougies. Les servantes apportèrent les soupières pleines de soupe et lorsqu'on enleva le couvercle de sel qui avait été placé devant la mariée, il en sortit une tête de mort qui se mit à sauter sur la table autour des assiettes et des plats. Les femmes jetèrent des cris perçants et se sauvèrent. La mariée eut une crise de nerfs, perdit connaissance et l'on fut obligé de l'emporter chez elle. Aussitôt qu'on l'eut enlevée, la tête de mort disparut et les hommes, se rassurant les uns les autres, se remirent à table où ils furent rejoints par les bonnes femmes alléchées par l'odeur des mets qui parvenaient jusqu'à elles. Bientôt les têtes s'échauffèrent car les mineurs boivent ferme et les chants commencèrent. Lorsque vers 10 heures le marié put, sans contrarier ses amis, aller rejoindre sa femme, il rentra chez lui. La pièce était dans l'obscurité la plus complète. Il avança doucement vers le lit et appela sa bien-aimée par les noms les plus tendres. Personne ne lui répondit. Il approcha davantage et mit la main sur l'oreiller, où il supposait que devait reposer une tête fraîche et charmante. Il recula d'horreur. Ses doigts s'étaient posés sur le crâne froid et glacé de la tête de mort. « Ne crains rien, » lui dit celle-ci. « Il vaut mieux pour toi que tu me trouves ici plutôt que celle que tu cherches, qui est possédée du démon. Elle est partie au loin sans même songer au chagrin qu'elle allait te causer. Elle a fui pour m'éviter, mais je saurai la rejoindre. Je l'ai aimée plus que toi, peut-être, cette misérable sans cœur et sans entrailles, qui, après s'être donnée à moi, a voulu recouvrer sa liberté. » Elle n'a pas hésité, pendant que je dormais à côté d'elle, à me trancher la tête à coups de hache. Par d'habiles mensonges, elle a pu faire croire à son innocence et éviter le châtiment de son crime. Mais ma tête qu'elle a coupée la poursuivra jusqu'à sa dernière heure. Ça, si c'est pas un conte terrifiant... En fait, ce qui est très surprenant dans cette histoire, ce sont les contrastes. Il y a un net contraste entre les sentiments de l'homme, qu'on nous présente comme éperdument amoureux, on nous dit qu'il redoublait d'attention pour elle, qu'il l'aimait de tout son cœur, qu'il était fou de joie, et la figure féminine, qui est présentée comme une beauté étrange, avec des yeux noirs, durs. Elle ne riait jamais, ne plaisantait jamais, et elle semblait sous l'emprise de souvenirs pénibles. Et puis il y a un autre contraste entre la douceur de l'homme et la cruauté de la femme. L'homme est enthousiaste, il buvait et trinquait à la santé de la nouvelle mariée. Il est rentré chez lui en étant d'une gaieté extraordinaire. Et la femme, elle, d'abord, elle repousse ses avances. Ensuite, elle abandonne son nouvel époux le soir des noces. Ensuite, on nous la présente comme possédée du démon, misérable sans cœur, et elle a tranché la tête de son premier mari à coups de hache. Et un autre contraste encore entre l'honnêteté de l'époux et la duperie de la femme. C'est un homme bien sous tout rapport. Il est présenté comme un parti avantageux et puis il respecte la coutume. Le texte nous dit « Le jour des noces ayant été fixé, le fiancé alla, selon l'usage, inviter ses parents et ses amis. Donc il fait tout dans l'ordre en fait. Il la courtise, la demande en mariage, fait la demande en bonne et due forme et ensuite l'épouse. » Et la femme, elle est extrêmement fourbe parce qu'elle n'a pas tenu son engagement auprès de son premier époux, parce que c'est une meurtrière et on nous dit que par d'habiles mensonges, elle a pu faire croire à son innocence. Et enfin, dans ce conte, il y a un contraste entre le présent et le passé. Le présent, c'est-à-dire le mariage, ne peut pas se réaliser à cause du passé. Les troubles du passé plus les erreurs commises par la femme n'ont pas été démêlés et c'est donc impossible d'aller de l'avant. Elle n'a jamais avoué le meurtre, elle n'a jamais parlé de son premier mariage, donc ce deuxième mariage ne peut pas se passer. C'est comme si le passé venait hanter le présent en fait et empêcher d'aller de l'avant. Et puis, il y a une terrible injustice pour le jeune marié. Lui, il paie le prix du passé. Il expie une faute qu'il n'a pas commise. Et puis, il perd la femme qu'il aime. Il découvre qu'en fait, c'est un monstre. Et il se retrouve entre une tête de mort qui veut se venger et la femme qu'il aime et qu'il abandonne. Donc, dans ce conte aussi, on a affaire à un homme complètement innocent qui va devoir payer un péché qui a eu lieu dans le passé. Et puis nous, en tant que lecteurs, franchement, on n'est pas dupes. On se doutait bien que c'était trop beau pour être vrai, ce comptable qui épouse une domestique, qui lui fait accéder à un rang social meilleur. Non, bien sûr, ça ne pouvait pas se passer comme ça. Hein ? Bon, alors déjà, ce conte se passe en automne. On nous dit que c'était en octobre. Donc là, on pense au conte précédent, l'auberge blanche, qui lui aussi se passait pendant l'automne. Donc, on le sait maintenant dans les contes, l'automne, c'est une période glauque. Et puis la femme, elle est louche, cette beauté étrange qui ne riait jamais, ne plaisantait jamais. On se doute bien quand même qu'il y a quelque chose. Et puis, la tension s'intensifie dans ce conte lorsque le marié, le futur marié, rencontre ce caillou qui parle, qui, au lieu d'être un caillou en plus, s'avère être une tête de mort. Et d'ailleurs, le texte nous dit « Une peur effroyable s'empare de lui. » Et là, le sommet, le paroxysme de l'angoisse a lieu au moment du coucher. Je cite le texte. « L'homme avança doucement vers le lit, appela sa bien-aimée par les noms les plus tendres, mit sa main sur l'oreiller où il est supposé que devait reposer une tête fraîche et charmante et il recula d'horreur. » On a cette espèce de crescendo de douceur, de joie. Le futur marié, enfin le marié, retrouve enfin son épouse et là, il tombe sur une tête de mort glacée, une tête de mort qui parle et qui lui dévoile la vraie identité de la femme qu'il aime et qu'il vient d'épouser. Non mais nous, on savait en fait que ça allait pas bien se passer. Voilà une histoire qui finit vraiment, vraiment, vraiment mal. Je vous laisse sur ces trois petits contes, aussi terrifiants que glauques. C'était l'émission Contes-Gouttes. Je vous dis à dans deux semaines pour une prochaine émission sur Radio Campus Grenoble 90.8.